Bienvenue sur TFM Care, c'est l'heure de votre mag. Et aujourd'hui, comme nous sommes vendredi, c'est livre, forcément. Ce sera en deuxième partie de l'émission avec les libraires indépendants du Lot, représentés par la librairie Calligramme à Cahors. Mais dans un premier temps, il est là, il est tout chaud, il est tout beau, il est chez votre marchand de journaux. C'est le nouveau magazine de Dear Lot. Mais que va-t-on y trouver à la une de ce magazine qui part à la découverte de notre patrimoine départemental? Eh bien, nous allons le savoir avec notre premier invité. Bienvenue, vous êtes sur TFM Care. C'est l'heure du mag. Le nouveau magazine Dear Lot est chez votre marchand de journaux et peut-être dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Et alors, on a décidé effectivement, comme chaque fois, de vous présenter ce programme, ce menu, j'ai envie de dire, avec une très très belle photo. D'ailleurs, il va falloir que Vincent Besserve, le directeur de la publication qui est avec nous, m'explique tout. Bonjour Vincent.
Bonjour Yannick.
Alors je dis belle photo de couverture parce que vous êtes intéressé à la grotte de Pêche-Merle.
Oui, la grotte de Pêche-Merle qui avait une actualité importante sur cette année 2022 avec les 100 ans de la découverte du lieu. Donc ça a été l'occasion de fouiller un petit peu dans les archives de l'histoire de ce lieu bien connu des Lotois, mais également devenu un des hauts lieux mondiaux de la préhistoire, qu'on a souhaité dévoiler dans le magazine et raconter cette histoire depuis le début, depuis la découverte du lieu.
Avec un témoignage en plus.
Avec notamment le témoignage de Maryse David, qui est la fille de ceux qui l'ont découverte. Donc c'est une belle aventure qui est retranscrite sur un petit dossier spécial dans ce numéro.
C'est qui a fait cette photo?
Alors la photo de couverture...
Je te colle un piège là.
Tu me colles un piège, mais la photo de couverture... elle est signée Rémi Flamand, qui a travaillé pour le compte des grottes et qui nous a prêté. Les grottes nous ont prêté ce visuel qui est en effet.
Ah, elle est magnifique.
Magnifique. Ouais, c'est vrai, merci.
Dans le Dear Lot de ce mois-ci également, vous êtes arrêté. Alors, ça commence par La Capelle Marival, votre article. Puis après, on dérive aussi vers d'autres villes de ce côté-là.
Oui, on a travaillé, on a essayé de mettre en avant un petit peu la ruralité, les dynamiques rurales au cœur des villages. Donc on est parti du côté de la Capelle Marival, mais aussi sur son pays tout autour.
Pourquoi la Capelle Marival d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a attiré?
C'est surtout il y a deux choses. Il y a un aspect patrimonial avec une grande richesse patrimoniale qui est existante sur cette commune. Et puis parallèlement, une grande dynamique associative et particulièrement sportive. Le rugby, il y a une place très, très importante à la Capelle Marival. C'est aussi un haut lieu de moto. Donc il y avait de quoi mettre en avant tant le patrimoine que les hommes et les femmes qui font la dynamique du pays de la Capelle Marival. Puis après, dans cette même logique de ruralité, on a essayé de mettre en lumière des communes qui sont plus dans le sud, du côté du Grand Cahors, que sont Calamane, Maxou, Mèchemont, qui sont des communes peut-être un peu méconnues, en tout cas, qui sait qu'elles sont vraiment dans le Grand Cahors, à part les administrer eux-mêmes peut-être, et encore, ça méritait de mettre un coup de projecteur sur des initiatives qui sont menées sur ces villages méconnus.
Ces petites communes ont des points communs avec la Capelle Marival dans leur...
Non. Oui, non.
À part qu'elles sont peut-être méconnues, mais...
Oui, non, elles n'ont pas les mêmes points communs, mais il y a quelques curiosités à découvrir en se rendant dans cette partie nord du Grand Cahors.
Ça, c'est pour le côté effectivement insolite. Si vous ne connaissez pas ces villages-là, eh bien, vous pourrez le découvrir dans le magazine Dear Lot. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de rencontres insolites, vous avez aussi été dans Bouriane.
Oui, on est parti en Bouriane. L'idée, c'était d'amener nos lecteurs sur les sentiers et chemins de Bouriane, du côté de Dégagnac, du côté de Salviac, La Vercantière et bien d'autres villages, pour des balades en plein air d'une part, mais aussi pour des rencontres surprenantes au fil des balades, avec des artisans au savoir-faire très singulier, des choses assez intéressantes qui peuvent rythmer une promenade d'un jour ou d'un week-end.
D'accord, ok, très bien. Ce qui veut dire que si vous voulez, même vous n'êtes pas dans le secteur, le magazine Dear Lot, vous pouvez aussi le commander sur le site internet. Comme ça, vous pourrez même découvrir tout cela et vous donner des idées pour vos prochaines vacances, entre parenthèses.
www.dearlot.fr, c'est
exactement.
Ça.
Et puis en plus, je crois que vous-même, on peut l'avoir en PDF aussi.
Aussi, hein. Version numérique. Alors on a moins de clients, lecteurs en PDF parce que les gens veulent le produit physique, l'objet. Mais ceci dit, quand on habite, et ce matin, ça partait à Hong Kong, on a un lecteur qui était qui a acheté en PDF. Voilà,
Parce que de toute manière, il y a des photos aussi. C'est vrai que c'est un véritable objet. Un guide touristique, j'ai envie de dire. Guide touristique et historique, d'ailleurs, aussi. Parce que vous vous êtes intéressé au 11 mai 1944 à Gramin.
Oui, historique parce que c'est une date qui a marqué l'histoire lotoise, à savoir le passage de la division d'Asreich qui remontait le Quercy et qui a fait une halte du côté de Gramat. Et là aussi, on a eu la chance d'avoir de beaux témoignages de personnes qui ont vécu cette journée, qui sont toujours en vie et qui se sont livrées au magazine pour raconter leur journée du 11 mai 44 en voyant arriver justement les forces armées militaires. Et assez émouvant, assez touchant. Et voilà, des parallèles à faire depuis quelques jours.
Donc là, c'est les témoignages qui vous racontent l'histoire, en quelque sorte,
oui,
dans cet article.
Oui, on revit la journée.
On revit la journée, ah oui, ça c'est intéressant. Et puis tiens, puisqu'on est dans la période, alors le titre, c'est « Faut-il craindre la guerre des truffes entre le Quercy, les États-Unis et la Chine ?» Là, il faut que tu m'expliques, Vincent Besser.
Ouais, rien de grave, hein, on n'est pas, pas sur le conflit que l'on entend aujourd'hui.
C'est surtout que moi...
En boucle, et on a bouclé ça quelques semaines avant...
Oui.
Avant les histoires que nous vivons aujourd'hui. Donc rien de vraiment problématique.
C'est surtout que moi je suis étonné de savoir qu'il y a d'autres truffes qu'en Quercy, en fait.
C'est ça. Alors il y a de la truffe partout dans le monde.
Ah, tu vois.
Ceci étant...
Je sacralisais l'endroit, moi.
Oui, alors il faut quand même un petit peu. Hein, il faut. Mais on en trouve bien évidemment dans notre région, on en trouve dans plusieurs endroits de France, mais également quasiment sur tous les continents. Donc ce qui était intéressant, c'est de pouvoir partir via une enquête que l'on a menée et un de nos rédacteurs qui est plutôt investi dans cet univers-là, de partir aux quatre coins du monde et d'essayer de comprendre comment ce champignon, Tuber melanosporum, celui que l'on a chez nous, mais également d'autres champignons qui ont des caractéristiques pour le coup assez proches, alors pas identiques mais très proches, se sont imposés ailleurs, et notamment sur des tables aux États-Unis, des très belles tables. Donc, guerre des truffes, voilà, c'était un titre un petit peu accrocheur pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une truffe et ça mériterait une bonne lecture pour comprendre un petit peu tous les champignons qui existent aux quatre coins de la planète.
Bon, il n'y a pas qu'une truffe, mais il y en a qu'une, c'est la meilleure, c'est la nôtre.
On va dire ça.
C'est certain même, attention. Dans votre magazine, vous mettez souvent aussi des portraits. Vous êtes arrêté sur Denis Charvet. Qui est Denis Charvet, pour ceux qui ne le connaissent pas?
Alors, Denis Charvet, c'est un enfant du pays qui est né dans le coin, ici, à Cahors, qui a grandi ici et qui a... fait ses premiers pas dans le club de rugby de Cahors avant d'en devenir titulaire de l'équipe 1 et puis de jouer ensuite au Stade Toulousain où il sera sans doute un des meilleurs joueurs de sa génération. Et Denis Charvet, c'est une vie qui se passe aujourd'hui à Paris puisqu'il est animateur radio à RMC avec une quotidienne. Ceci étant, c'est une vie dédiée au rugby auparavant et une enfance passée ici. Donc on a eu la chance on l'a contacté un petit peu au culot, voir s'il serait OK pour jouer le jeu. Une accroche directe et une volonté de parler de son pays natal dès les premiers instants. Il en a parlé avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Et même s'il ne rentre pas souvent, ben voilà, il nous a raconté toute sa jeunesse, ses rêves de jouer en équipe première à Cahors, et ce qui a fait de lui un homme et un beau joueur de rugby pendant plusieurs dizaines d'années.
Et je ne spolie pas en disant la phrase, parce que c'est sur la couverture, où il déclare « Si le bonheur véritable ressemble à cela, je l'ai alors touché de très près, il se trouve ici dans le Lot ».
Exactement.
On a envie de lui dire, il faut que tu reviennes plus souvent aussi, mon gars.
Ça serait bien quand même. Ouais, ça serait bien. Alors il y avait en plus un Cahors Gaillac. Alors comme il anime une émission avec un certain Vincent Moscato sur RMC.
Quelqu'un de pas très connu. Quoi.
Voilà, de Gaillac, on s'est dit que ça été bien d'avoir les deux pour le Cahors Rugby sur l'événement. Mais l'événement a eu lieu là, donc c'était un petit peu tendu. Mais peut-être l'an prochain, qui sait.
Eh bien, pourquoi pas. Et puis pour terminer, vous avez aussi décidé de faire un article avec l'association pour la sauvegarde des maisons et du patrimoine et du paysage quercinois.
Oui, tout à fait. L'association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy. En fait, c'est une association qui œuvre pour garder cette cohérence architecturale sur le territoire et qui accompagne justement des projets de rénovation et qui va être un peu lanceur d'alerte également sur du bâti en péril. Et c'était assez intéressant de les suivre dans leur démarche parce qu'il y a quand même en effet pas mal de bâti sur le territoire lotois qui mérite d'être surveillé avec un œil attentif. Ça se dégrade, il y a quand même pas mal d'interventions à faire et c'est une association qui œuvre dans le bon sens. On trouvait que c'était bien de les mettre en lumière.
Et bien voilà tout ce qui vous attend et bien d'autres choses encore dans Dear Lot Magazine, parce qu'évidemment on ne vous a pas tout dit. Mais en tout cas, si vous voulez connaître le Lot, je pense que Vous pouvez dire, si le lot je connais par cœur, à mon avis, à chaque numéro, il y aura toujours quelque chose que vous ne connaissiez pas et que vous allez apprendre, notamment dans ce magazine qui est maintenant chez votre marchand de journaux et sur direlot.fr si vous êtes éloigné. Merci beaucoup Vincent Besserve.
Merci.
CFM Cahors, le mag.
CFM Cahors, comme chaque semaine, c'est le moment de retrouver vos idées de lecture proposées par les lecteurs. Avant d'être lecteur, il faut d'abord passer par le libraire, et donc le libraire indépendant du Lot. Et aujourd'hui, dans la librairie Caligramme, c'est Cyril qui est avec nous. Bonjour Cyril.
Bonjour Yannick.
Deux bouquins, comme d'habitude, parce que à chaque fois tu nous prépares deux bouquins. Un manga, on va y venir, un sujet léger, parce qu'on en a besoin.
Ouais.
Puis là, on va attaquer directement par un sujet un peu plus lourd.
Un peu plus lourd. Donc effectivement, première chose dont je vais parler, le premier livre dont je vais parler, c'est un roman de Andrei Kourkov, ukrainien. Donc
pourquoi
écrit effectivement là bon on va surfer un peu effectivement sur la entre guillemets la vague du moment.
Ouais.
Donc on est vraiment en plein dedans. Ça s'appelle Les Abeilles Grises. Alors on va suivre l'histoire de deux personnages, Sergeïtch et Pashka, qui sont les seuls résidents d'un petit village qui a été abandonné, qui se situe en fait dans le Donbass, donc dans la zone grise.
La fameuse zone grise
là-dessus, donc cernée à la fois par les Ukrainiens d'un côté et par les pro-russes de l'autre. Donc ces deux personnages survivent entre guillemets, vivotent, puisque tout le monde a quitté en fait le village au fur et à mesure de notamment la montée en puissance de la violence qui commençait, voilà, et de la sensation de guerre entre guillemets qui commençait à se mettre en place.
En quelle année là?
En fait il n'institue pas de l'année, hein. C'est, voilà, il a été écrit l'année dernière, donc effectivement ça doit être par rapport à l'année dernière, mais il n'y a pas de date précise en fait.
D'accord.
C'est pas timé, c'est pas daté en tout cas. Et donc effectivement Sergeïtch et Pashka sont des ennemis un peu d'enfance, puisque l'un est pro-russe et l'autre, effectivement, on peut pas dire pro-ukrainien, mais c'est quelqu'un qui s'engage pas forcément, mais qui est pour la paix, donc qui est plus du côté effectivement ukrainien, qui a pas envie d'avoir la mainmise de la Russie dessus. Et donc ces deux ennemis d'enfance entre guillemets, ça se ticote un peu, en sachant que Sergeïtch est apiculteur, donc c'est son métier de première. Il lui reste une ciruche, donc là l'histoire commence en plein hiver, donc elles sont enfermées dans une grange pour éviter le froid. Et donc, on découvre un peu ces deux personnages et leur vie quotidienne, un petit peu, qui ne font rien, puisque il ne se passe rien, hein, pratiquement. Sauf, effectivement, des incursions de rue de pro-russes et des petites batailles par-ci, par-là.
La routine à l'époque, quoi.
Voilà, etc. Un peu la guerre larvée, entre guillemets, ouais. Mais plus des escarmouches que vraiment une guerre pure. Et donc, Sergeïtch, donc le temps se passe et on arrive au printemps, et Sergeïtch, pour, effectivement... sort ses abeilles et pour effectivement les faire, les sortir et les refaire, redevenir des vraies abeilles et refaire le miel, décide de lui trouver un endroit moins dangereux. Et donc là, il va les charger dans son camion et il va partir, va parcourir en fait l'Ukraine entre guillemets. Ce qui est pas mal, ce que j'adore vraiment, c'est que on voit la vision en fait d'un personnage qui est un peu naïf, un peu lui pour lui, il faut que ce soit la paix, il comprend pas qu'il y ait la guerre, qu'ils vont pas, et surtout c'est vraiment un passionné des abeilles. Donc on a toujours un petit comparatif entre la société très ordonnée des abeilles et toute la violence dont peut faire preuve l'homme, et de toutes les choses en fait complètement désordonnées que peuvent créer cette sensation de guerre larvée, où on ne sait pas encore, il n'y a rien de déclaré, mais voilà, on sent que surtout c'est très prégnant, en tout cas on sent que l'œil russe est là et présent sur tout ce qu'il fait de tous les voyages, et on va rencontrer un nombre assez incalculable de personnages et d'habitants de ces trucs-là, avec les pros, les contres, les neutres, les gens qui vivent leur vie, qui essayent de survivre malgré tout ça. C'est vraiment une vision de l'Ukraine telle qu'on la connaît, avec cette épée de Damoclès qui est au-dessus d'elle.
D'autant plus que ça a été écrit avant la guerre, du coup, puisque ça c'est paru il y a quelques temps, qu'il a fallu l'imprimer avant.
Il est sorti il y a un mois ici, voilà. Donc le 3 février dernier. Et effectivement, il est sorti l'année dernière, l'année d'avant, en 2021, en Ukraine, en Russie, enfin en langue russe, quoi. Et franchement, voilà. Et alors, tout ce que j'adore, c'est que c'est contrairement au fond, en fait, c'est vraiment une ode à la paix. Gourcoff est quand même un auteur qui est justement là-dedans, qui est très humoristique en plus. Il y a tout un humour, tout un traitement de l'humour assez fin. Et moi, je me suis pris à éclater de rire de temps en temps parce qu'il y a des situations qui sont quasi comiques, puisque Sergeïtch, quelqu'un d'assez naïf, d'assez candide, et en fait, il se rend pas compte de ce qui. Enfin, il se rend pas forcément compte de l'épée qu'il y a au-dessus et de ça, donc il va dans des endroits super dangereux parce qu'il est à la recherche en fait de l'endroit idéal pour ses abeilles. Ses abeilles sont tout pour lui, donc effectivement, voilà, il préfère les abeilles aux humains, voilà, il y a tout ce côté là-dessus.
Avec un petit câlin d'abeille.
Exactement, et effectivement, et c'en est encore plus drôle, entre guillemets, quand on a les dialogues entre Pashka, son ami et ennemi d'enfance, et lui, parce qu'ils se sont souvent par téléphone, puisque lui, il ne le suit pas forcément, il reste dans son village natal, d'ailleurs qui existe réellement, hein, je ne connaissais pas, mais ça s'appelle, alors, la prononciation va être...
Oula, oui.
C'est Malastarogradivka.
J'ai pas compris.
Malastarogradivka.
Hein, tu peux répéter?
Oui, effectivement. Mais voilà, moi, je n'ai malheureusement pas l'accent russe et ni ukrainien. Mais en fait, voilà, c'est un village qui existe vraiment, qui a été abandonné. Là, aujourd'hui, c'est un village fantôme. Bon, maintenant, avec ce qui s'est passé, on ne sait pas trop. Mais voilà. Mais c'est vraiment voilà, une histoire intéressante qui, on va dire, surfe sur la vague actuelle. Mais.
Roman d'amitié, voilà. Roman de guerre, roman sociétal, finalement, c'est
un
quoi
peu tout, un peu tout, en fait, un peu tout ça, puisque on découvre une Ukraine, en fait, justement, sous embargo russe. Donc il y a vraiment ce côté phénomène de société avec tous les habitants qu'on va rencontrer au fur et à mesure et les différents villages qu'il va visiter pour essayer de trouver cet endroit-là. Amitié, pas vraiment, parce que il n'y a pas vraiment d'amitié. Sergeïtch est vraiment dans sa bulle, entre guillemets. Même si il a un dialogue avec Pashka, c'est plus un ennemi, entre guillemets, qu'un ami.
Alors, est-ce que la question est autrement? Parce que quand on propose un livre qui parle de l'Ukraine, on a quand même un petit peu peur. Est-ce que c'est quand même plutôt positif ou est-ce que c'est un roman noir?
Ah non, justement, c'est comme je vous dis, c'est très humoristique. Il y a
c'est
beaucoup de situations humoristiques, c'est du bonheur. C'est même si le fond est présent et alors Andrei Kouvkov est un Ukrainien, donc est plutôt pro-ukrainien que pro-russe.
Ça doit se ressentir, de toute façon.
Mais ce que j'aime bien, c'est que justement, c'est une ode, dans ce livre, en fait, c'est une ode à la paix. C'est vraiment à travers les abeilles et à travers les relations que peut avoir Sergeïtch avec les abeilles et son antipathie, justement, avec la guerre et avec toutes ces choses comme ça, et son côté un peu justement naïf. Il y a ce côté un peu candide ou l'optimisme. Il est toujours optimiste pour lui. Son rêve, c'est que les abeilles soient le plus sympa possible, qu'ils soient dans un environnement où il n'y a aucun danger. Et donc, il recherche ça en Ukraine, alors qu'on sait que la Russie est toujours là, quelque part.
Un petit peu de naïveté dans
ce
monde. Exactement.
Et pour la petite anecdote, les abeilles grises existent réellement.
Oui,
puisque c'est
vrai.
Il y a une espèce d'abeille. Ce que je me suis un peu renseigné derrière, parce que le titre, je ne comprenais pas forcément. Et en fait, effectivement, l'espèce des abeilles sont des abeilles grises. Elles sont originaires de Géorgie, donc des monts du Caucase. Et c'est vraiment une espèce endémique de cette région-là.
Andrei Kourkov, Les abeilles grises, une histoire qui se passe dans le village de, tu m'as dit
Malastarogradivka.
Qu'est-ce que je suis
dit?
Et encore, je suis sûr que tu l'as mal prononcé. Aux éditions Liana. Liana Lévy.
Liana Lévy, ouais.
Et c'est donc chez vous, libraire indépendant. Alors maintenant, on va. Finalement, moi je pensais que ça allait être un sujet lourd dont tu nous parles. Bon, non,
ouais,
au final,
mais
c'est
non,
bien.
En fait, voilà, c'est. Pour connaître un peu la situation de l'Ukraine à travers le regard justement d'un roman, plus que par rapport à ce que les médias en font aujourd'hui et on découvre un petit peu. En fait, voilà, on découvre une société. Et malgré tout, on sent une société soudée. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe en ce moment où on se rend compte, où la Russie, enfin Poutine, si on veut rentrer un peu dans le côté un peu actuel, où Poutine s'est rendu compte que la blitzkrieg qu'il voulait faire en fait n'existe pas, puisque la Russie, enfin l'Ukraine, c'est vraiment épaisse soudée. Et on s'en rend compte là-dedans, à travers les différents villages qu'il va visiter, où les gens, en fait, se connaissent tous et sont là et ils veulent vraiment défendre, de toute façon, défendre la chose. Donc c'est vraiment un roman. C'est un roman choral. Moi,
ne voyez pas ce roman comme un document qui va vous faire comprendre la crise ukrainienne. Ça n'a vraiment rien à voir. De toute manière, il y a un parti pris puisque l'auteur est ukrainien. Donc on se doute bien qu'il ne va pas parler pour les Russes. Pardon. Les abeilles grises d'Andrei Kourkov. Maintenant, un manga.
Voilà, bah, vous connaissez ma passion pour les mangas, ouais. Maintenant, j'imagine.
Ouais. Donc, c'est le spécialiste ici, d'ailleurs.
Ouais, hein, d'ailleurs, ouais, et puis même, je pense, pas mal de Asandomofamesti de tout Kaor, je pense.
Et tu parles couramment le japonais,
Mathilde. Couramment, peut-être pas, mais je baragouine pas mal et je le comprends surtout. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, après, je ne dis pas que je suis bilingue, mais oui. Bah, après, je m'intéresse au Japon depuis très longtemps, donc c'est partie de ma culture, entre guillemets, et ma culture générale. Donc là, je vous parle d'un manga qui est sorti récemment, qui est vraiment, pour moi, une petite pépite. J'ai découvert il y a quelques mois déjà en pré-publication. Ça s'appelle Frieren. Frieren, on est dans un univers fantasy, donc un univers avec des elfes, des nains, avec des monstres, et puis un univers vraiment inventé. Au début de l'histoire, on a un groupe de quatre héros qui viennent de battre un roi démon, donc la paix se refait sur leur univers. Mmh. Ils sont félicités, etc. Et parmi ces quatre personnages-là, vous avez donc deux humains, un nain et une elfe. Dans l'imaginaire collectif de la fantasy, on sait que les elfes ont une durée de vie très, très, très longue par rapport à l'humanité, à l'humain, ou même par rapport à certains, aux nains, dans l'imaginaire. Donc le personnage principal qui s'appelle Frieren, qui est cet elfe, va donner rendez-vous 50 ans plus tard, en fait, à l'équipe pour se retrouver, et fêter un peu ce truc-là. Et elle ne se rend pas compte, en fait, de base, en tant qu'elfe, pour elle, 50 ans, c'est rien. Pour un humain, c'est déjà beaucoup plus important. Et quand elle va les retrouver, en fait, elle va se rendre compte qu'eux sont vieux, la plupart, et qu'ils sont même certains sur le point de décéder. Et là, elle va se focaliser sur la découverte justement de ce qui fait l'humain. C'est très particulier comme approche, mais c'est vraiment une approche un peu innovante de cet univers-là. On va voir le regard d'une personne qui est quasi immortelle par rapport à des gens qui effectivement ont une vie beaucoup plus courte et essayer de comprendre. On va essayer de comprendre en fait son évolution de pensée. Et son regard par rapport justement à cette vie-là. Notamment parce qu'elle va prendre en charge certaines personnes qui sont soit les disciples, soit les jeux. Et donc effectivement, elle va servir de transmetteur de ses souvenirs. Ouais. Parce qu'on va avoir pas mal de flashbacks sur les relations qu'elle avait, parce qu'elle a vécu 10 ans avec ses trois compagnons dans la quête justement du roi démon. Mmh. Et donc on va avoir pas mal de choses et donc elle va se remémorer ça. Et d'elfes un petit peu justement décrochés, enfin qui est décroché un peu de ces sentiments-là, d'urgence, de choses, parce que tous ceux qui connaissent un peu les romans fantasy savent très bien que les elfes sont toujours un petit peu en décalage et sont toujours un peu la mémoire des sociétés de ça. Bah là, en fait, elle va essayer de trouver le côté un peu plus empathique et essayer de comprendre un petit peu, justement, comment fonctionne l'humain. Et ça, j'adore. C'est tout en petites touches. On a pas mal d'ellipses, sans spoiler le truc-là. On va avoir des ellipses, des fois, de 4 ans, de 6 mois, de 6 ans, où on va avoir juste des petites scénettes qui vont parcourir ça. Et on va passer directement à la suite de l'histoire. Et c'est en ça où on se rend compte que, à côté de ça, ces personnages secondaires qui vont être autour d'elle, qui sont pour la plupart humains, vont grandir. Et elle, en fait, elle va toujours avoir le même visage et la même tête. C'est vraiment poétique, c'est tout en petites touches nuances, le dessin apporte très bien. Les deux auteurs, c'est leur premier manga, donc à la fois au scénario et à la fois en dessin, même s'ils ont déjà fait d'autres choses dans des fanzines et des choses un peu là-dessus, mais c'est vraiment leur premier manga prépublié et en relié. Moi j'adore, c'est une petite perle, les deux premiers tomes sont déjà sortis, le troisième arrivera bientôt. Donc c'est à découvrir, si vous voulez une histoire un peu plus mature, dans l'absolu, mais une revisite un peu du regard, c'est vraiment génial.
Et ça s'appelle Frieren.
Frieren, et c'est chez Kiyun, donc les éditions Kiyun, qui est une édition de manga assez sympathique. Et au scénario, Yamada, et au dessin, Abe.
Et le dessin est en noir et blanc.
Oui, bien évidemment, c'est comme toujours.
Ah, il n'y a pas de manga en couleur.
Non,
dans
le manga, très rarement, ça peut exister, mais c'est très très rare. Parce qu'ils ont la culture du dessin noir et blanc. Après, vous en trouvez plus en Corée ou en Chine, où effectivement, ça va être plus cet aspect-là, même si la Corée moins, mais la Chine, c'est vraiment le culte de la couleur, et vraiment là-dessus. Le manga, c'est très, très, très rare.
Eh ben merci Cyril, et tous ces livres sont chez vos libraires indépendants, et puis si jamais ils ne l'ont pas en vitrine, ben, vous n'hésitez pas, vous leur demandez de le commander, ça arrive plutôt vite, et ces libraires, ils sont 7 dans le Lot, à Cahors, à Gourdon, à Montcuq,
à
Figeac,
je sais
bon,
plus.
Promis, un jour je ferai la liste,
on la prendra par cœur,
et on vous les dira, mais en tout cas faites leur confiance. Merci Cyril, à bientôt.
Merci Yannick.
Et c'est la fin de ce magazine. C'est le week-end en plus, profitez-en bien, avec un petit peu de soleil, mais vraiment un petit peu quand même. Mais les beaux jours reviennent dès la semaine prochaine. Et le magazine aussi, à réécouter d'abord si vous le souhaitez à 17h et à 21h30. Et dans un instant, eh bien, c'est le journal.